bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Je suis très très content d'être parmi vous. À chaque fois que Dieu me donne l'occasion de venir en Europe, je ne peux manquer de passer vous rendre visite parce que vous êtes une famille que Dieu a créée, une famille que Dieu a fait, une famille que Dieu a préparée pour moi. Donc, ceux qui ne connaissent pas totalement le témoignage, depuis 1994, c'était au mois d'août, où le Saint-Esprit m'a dit, je t'enverrai dans le pays des Blancs. Mais je ne connaissais pas de Blanc. Je n'avais pas de relation avec un Blanc. Je n'ai pas un parent qui vit dans le pays des Blancs. J'étais qu'un boussard. J'étais dans le village avec les animaux de mon père. Je courais dans les bruisseaux, au milieu des arbustes. Mais Dieu me dit, je t'enverrai dans le pays des Blancs. Je n'ai pas de diplôme pour moi pour venir en Europe. Il faut étudier, il faut aller à l'université, il faut avoir d'argent. Mais Dieu est les diplômes, Dieu est l'argent. Et par sa grâce, après 10 ans, il a utilisé le révérend Michel Janton et son épouse Michou, ainsi que tous les frères et sœurs. Et pour la première fois, je suis venu en Europe. Et j'ai dit, ça y est, Dieu soit loué, la prophétie s'est accomplie. Et quand je suis retourné, Dieu me dit, non, j'étais envoyé d'aller explorer. Tu as vu. Maintenant, tu vas y retourner et tu vas prêcher ma parole. Tu vas annoncer l'évangile. Il ne m'a pas permis de venir vivre ici. Donc, il m'a dit de venir prêcher. Ma mission n'était pas d'échapper à la pauvreté qui est dans mon pays. La mission que Dieu m'a confiée, ce n'était pas venir m'installer en Europe et puis profiter de cette paradisiaque, cette belle vie. Mais c'était de venir accomplir la volonté de Dieu.
Amen.
Et jusqu'à présent, depuis 2003, je viens en Europe. Dieu m'a ouvert les portes presque de tous les pays où je vais y aller, j'y vais pour apporter la bonne nouvelle. Donc je tiens encore une fois de plus rendre gloire à Dieu et vous remercier, vous qui avez accepté de nous soutenir des projets d'eau potable, de l'alimentation depuis plus de 22 ans, donc 22 ans au maximum. Dieu vous a utilisé à faire beaucoup de choses. On a eu beaucoup de soutien grâce à vous et tous ceux qui ont mis la main dans la poche pour les réparations de forage, pour soutenir les veuves, pour aider les femmes, les orphelins, la scolarité, vous avez payé, vous avez fait beaucoup de choses. S'il y a un livre qu'on doit mettre pour écrire, on ne pourra jamais finir de noter et d'écrire ce que vous avez fait. Pour la communauté au Burkina Faso, pour le peuple burkinabé, et en plus, pour moi-même personnellement dans ma vie, les billets d'avion que vous avez payés souvent pour que je vienne. Si je dois m'arrêter, je vais, comme monsieur le disait, il faut qu'on fasse au moins 5 heures de culte pour que je raconte toutes ces choses. Voilà. Mais c'est l'essentiel que je vais partager avec vous. Et de fait que Dieu m'a permis d'être là et de venir en Europe et de tourner de gauche à droite, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la main invisible de Dieu qui a agi. Et aujourd'hui, je suis devenu maire de ma commune. Dans cette commune où je partais prêcher la parole de Dieu, dans cette commune où je partais annoncer l'évangile, et on me traitait de fou, on me traitait de bête, on me traitait de tous les maux. C'est ce fou-là qui est devenu le maire de la ville de Boussé. Et aujourd'hui, je peux dire que durant mon mandat, j'ai vu la main de Dieu. Boussé a été transformé. Boussé a changé. En matière d'eau potable, en matière d'infrastructure, en matière routière, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu comment Dieu il a agi. Et il faudra que je prenne carrément un dimanche juste pour faire uniquement que les témoignages. Parce qu'il y en a beaucoup. Chaque année, je construis une église. Chaque année, une église de 20 mètres sur 10. Donc, vous voyez combien ça donne. Ça peut prendre beaucoup de gens. Et là, actuellement, si je rentre, c'est mon église locale qui sera mise en place pour une construction qui va prendre à peu près 253 personnes. Amen. Et si Jésus ne revient pas vite, je ferai une église de 50 000 membres.
Amen.
Dieu voulait. C'est la foi. Donc ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous la foi violente. C'est le thème que j'ai dans mon cœur pour partager en quelques lignes avec vous. Il y a la foi, mais je vais parler de la foi violente. Si notre foi n'est pas violente, nous allons manquer beaucoup de choses. La foi violente, ce n'est pas de la violence négative. Ce n'est pas de la violence physique. Ce n'est pas de la violence que nous pouvons utiliser de façon anarchique, de façon autoritaire. Non. Mais la foi violente, c'est la foi qui transforme. La foi qui change les situations dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans nos activités, dans nos projets, dans ce que nous voulons entreprendre. La foi violente, c'est la foi qui t'amène à aller au-delà de l'imagination. La foi violente, c'est la foi qui te fait que les gens vont te qualifier de bête, de quelqu'un qui ne réfléchit pas, de quelqu'un qui est fou, de quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés nécessaire. La foi violente, c'est un mystère de Dieu. Ce n'est pas de la religion. Non. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui disent qu'ils partent à l'église, mais ce n'est pas aller à l'église le problème. Ce n'est pas prendre la parole de Dieu. On peut prendre la Bible, lire la Bible comme si on lisait le Figaro. Comme si on lisait des informations dans la presse. Non, la foi violente va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, va au-delà de ce que nous pouvons penser, va au-delà de ce que l'homme peut faire. La foi violente, c'est la foi qui est engagée. Donc, engager la foi violente pour un changement de situation surnaturelle. C'est ça la foi. Beaucoup de gens prennent Hébreux, chapitre 11, le chapitre de la foi. Oui, la foi, c'est une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Mais ça veut dire quoi? Dans la réalité, ça veut dire quoi? Engager la foi violente pour un changement de situation surnaturelle. Nous sommes chrétiens, nous devons être des visionnaires. Nous devons être des gens qui sont capables de voir et de percer le surnaturel. Nous ne devons pas être limités. Alors que la foi va au-delà des limites des hommes. Donc, toutes les personnes qui ont une foi violente sont prêtes à changer le monde et à changer eux-mêmes. Et une fois que eux-mêmes ils sont changés, ils peuvent aller maintenant changer le monde. Donc, la foi violente transforme, change. Quand vous prenez par exemple Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre n'était pas, on l'appelait pas Pierre. On l'appelait Simon. Simon c'est quoi? C'est l'empereur. Simon c'est quoi? C'est l'incapable. Simon c'est quoi? C'est le peureux. L'homme qui n'était pas capable de se tenir devant quelqu'un. C'était un chachote. Voilà. Donc ça c'était Simon. Mais au moment où il a rencontré Jésus, au moment où il est devenu Pierre, il est devenu un agent de changement. Quand Simon a rencontré Jésus par la foi, il a été changé, il est devenu une pierre. Et la pierre, ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est le roc, le granit. C'est la pierre la plus forte, la pierre qui fait, qui a un grand, une puissance. Tant que tu n'es pas fortifié, tu ne peux pas avoir la foi violente. Tant que tu n'es pas fortifié. Mais Pierre, Simon, qui a été fortifié en Jésus, sa foi a changé. Depuis qu'il a été, il a rencontré le Christ, il a été fortifié et à ce moment, sa foi a changé, sa situation a changé. Si ta foi manque de preuves, elle est fausse. Une fois où il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. J'ai la foi, mais il n'y a pas de preuves. Paul dit, montre-moi ta foi, et je te montrerai ma foi avec l'air. Alléluia, que Dieu te bénisse, ma soeur. Mais voilà, à quoi ça sert de dire, j'ai la foi. Mais oui, tu as la foi. Mais comment tu peux me montrer ta foi? La foi doit être matérialisée. Si la foi n'est pas matérialisée, elle est vaine. Elle est sans effet. Elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de puissance. Cette foi n'a rien à voir avec la foi en Christ.
Amen.
La foi est la démonstration. C'est la démonstration. La Bible dit que la foi, c'est une démonstration. Mais si tu n'as pas quelque chose à démontrer, mais comment tu vas dire que tu as la foi? Non, mais je m'excuse. Il faut démontrer. Il faut faire une démonstration. Quand quelqu'un dit qu'il est fort en mathématiques, mais on connaît le maçon au pied du mur. Non, je suis un maçon. Moi, je construis. Il n'y a pas de problème. On ne discute pas trop. Voilà. Prends les briques. Commence à construire. Mais quand on va voir que le mur n'est pas droit, on saura que tu n'es pas un bon maçon. La foi qui change les hommes, c'est la foi qui peut changer le monde. Si nous voulons que notre foi change le monde, il faut que cette foi-là puisse nous changer d'abord nous-mêmes. Donc, depuis le temps de Jean-Baptiste, quand nous prenons la parole de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste, nous pouvons voir que le règne de Dieu souffre de violence. Il souffre un vent violent. Et seulement, c'est le vent qui peut réellement amener progressivement les promesses de Dieu à s'accomplir dans notre destinée. Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste, C'est par la foi qu'il a prêché, qu'il a annoncé l'évangile et qu'il a baptisé le Christ lui-même. Nous lisons dans 1 Timothée. Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée 6, à partir du verset 12. Donc 1 Timothée 6, le verset 12. Donc qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce sens-là? Le verset 12 nous dit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il dit à Timothée: combat le bon combat. Donc la foi, c'est un combat. La foi, ce n'est pas quelque chose de tranquille. Ce n'est pas quelque chose de facile. Non, il faut être un violent pour aller à un combat. Je ne connais pas. La France nous a colonisé. Et la France, nous avons adopté la culture française. Je parle au niveau des langues. Donc, pour dire que la langue française n'est pas autre chose que la langue française. La langue française est la langue française. Donc quand on dit un combat, nous tous nous savons ce que ça veut dire un combat. Un combat, ce n'est pas... C'est rien. Non, c'est un combat. C'est quelque chose, il faut aller lutter. Il faut aller combattre. Il faut aller sur le terrain. Il faut monter sur le ring. Il faut aller sur le champ de bataille. Donc Paul dit à Timothée, tout simplement, combat le bon combat de la foi. Comment tu combats le bon combat de la foi? Comment tu combats le bon combat de la foi? Ça, c'est très très important. C'est très important pour chacun de nous. Afin que nous puissions savoir que le bon combat ne se combat pas avec nonchalance, avec découragement, avec je veux pas, je peux pas, il n'y a pas d'hésitation. Non, le bon combat. Donc vous êtes un combattant pour avoir une vie éternelle, pour avoir les choses que Dieu a promis pendant votre existence sur cette terre. Sans la foi violente, sans la foi en Christ, sur cette terre, nous sommes à la proie, nous sommes des proies pour le diable. Le diable va s'amuser avec nous. Et pendant le temps que tu vis sur la terre, Dieu a fait des promesses pour toi. Mais le diable vient voler ça. Mais il faut combattre. Si tu ne combats pas, comment tu peux gagner? Je vais vous donner un exemple. Je ne sors pas du contexte biblique. Parce que Jésus dit, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle qui nous condamne. Ce n'est pas une nouvelle qui nous amène à nous rabaisser. Ce n'est pas une nouvelle qui nous amène à nous irriter. Non, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui rejoue le cœur. Une nouvelle qui nous donne de la pêche. Hein, pour que nous puissions être réveillés et foncer, aller de l'avant. Quand tu entends quelqu'un te dire la banque t'appelle parce que tu as fait des bénéfices, voilà ce que tu as. Mais tu es content. Tu reçois par la poste une lettre qui dit que voilà, tu seras décoré par le président de la République. Mais ça, c'est une bonne nouvelle là. Et tu es content. Voilà, ou bien on t'appelle, on te dit voilà, tu as gagné une voiture, mais tu es content. Voilà, donc un exemple de la foi violente. Quand je prends la femme avec le juge, la Bible nous dit que cette femme-là,
Est-ce qu'elle devait aller voir le juge?
Parce que elle voulait que le juge puisse prononcer le droit sur son champ. Mais elle est arrivée. Elle a tapé. Le juge ne s'est pas réveillé. Jésus dit que cette femme est retournée de nouveau. Et puis elle a tapé encore. Mais imaginez. Je m'excuse, je n'ajoute rien, je ne retranche rien, mais c'est typique Nicolas Sawadogo. Je me dis que la femme était au moins à 500 km du juge. Bon, juste pour y manger. Juste pour nous faire un peu balader dans le message. Donc, la femme est à 500 km. Mais de 500 km, elle vient voir le juge. Le juge ne veut même pas s'occuper d'elle. Elle retourne. Elle revient de nouveau encore. Le juge ne veut même pas s'occuper d'elle. Elle repart. Elle revient encore. Mais c'est un combat. Elle était en train de combattre. Et par fini, Jésus dit que même le juge qui a un cœur incrédule, dur, il vient lui arranger le problème de la femme afin d'avoir la paix. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi violente. Si ma foi n'était pas violente, elle n'allait pas pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc, la foi avec le juge, c'est la foi qui ne laisse pas partir. C'est-à-dire, tant que je n'obtiens pas, mon frère Olivier, tant que je n'obtiens pas, je ne laisse pas. Non, je suis décidé. Je suis décidé. Il faut que le juge se lève. Il faut que le juge me rende justice. Il faut que le juge sache que je suis une femme. Les femmes qui ne sont pas considérées, les femmes qui sont marginalisées. Non! Jésus dit que cette femme a lutté jusqu'à à sa dernière souffle de vie pour que le juge puisse se lever pour dire que ça y est, maintenant je te rends justice. Et elle a reçu la justice. Elle a été glorifiée, elle était couronnée. Mais supposez que si cette femme-là, elle était là, oh, mais les juges ne veulent pas m'écouter. Je suis allé voir les juges, mais les juges, ils s'en foutent de moi. Surtout qu'en Israël, les femmes n'étaient pas considérées. Comme que nous aussi, dans notre ethnie, les moussis, les femmes n'ont pas droit à la parole dans la société. Non, ça c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. La femme a toujours quelque chose à dire. Paul a dit, sans la femme, l'homme n'est rien. Sans l'homme, la femme n'est rien. Donc les deux se complètent. Amen.
Amen.
Vive les femmes.
Amen.
Alléluia. Vous voyez, je m'excuse, ce n'est pas pour jeter des fleurs. Non, je ne veux pas jeter des fleurs à qui que ce soit. Voilà, il y a des fleurs sur la table. Non, c'est bon. Chez nous, je ne veux pas jeter des poulets pour les femmes. Parce que chez nous, les femmes aiment les poulets. Si tu amènes une fleur, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mais tu amènes un sachet noir avec un poulet rôti, un poulet télévisé. Mais là, elle est contente. Ah oui, tu fais ça à ta femme, il faut, je te rassure, la nuit sera une nuit paradisiaque. Amen. Mais ici en Europe, Michel ou bien Philippe amène un poulet rôti à sa femme. Mais j'imagine comment ils vont réagir. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais voilà, donc chacun dans son chacun, chacun avec ses cultures. Donc, c'est ce qu'il dit, je vais jeter les fleurs à quelqu'un, mais je vais quand même citer un exemple. Si la Bible cite l'exemple des femmes en Israël, nous aussi on a le droit de citer aussi des femmes, non? Oui ou non? Est-ce que c'est interdit? Voilà. Donc, moi je vais citer Madame Janton Michou. Je m'excuse, hein, mais une femme, hier, Michel me disait, si Dieu ne m'avait pas donné cette femme, mais j'étais fichu. Mais au moment quand Michel me disait ça, j'ai failli parler, mais je me suis retenu. Parce que je ne voulais pas parler. Je me suis retenu. Parce que depuis 20 ans, plus de 20 ans, J'ai vu comment Bouchy, comment elle gère les choses, comment elle fait. J'avais mal au pied parce que j'avais mal marché. J'ai fait la photo, j'ai envoyé à Michel. Mais à travers la photo, elle regarde et elle me dit quelque chose que le docteur m'a dit, même chose. Bon, mais bon, j'ai failli dire que bon, elle voit, hein, la Michou. Mais non, mais elle est cadrée dans sa tête. Donc, je ne jette pas des fleurs, je dis ce qui est juste. Je vois comment elle se bat quand on doit envoyer de l'argent au Burkina. Comment elle se bat pour que réellement ça arrive. Et elle doit se lever chercher. Elle doit. Mais ça, c'est une foi violente. Et sache que tu seras récompensé. Dieu te récompensera. Ça, j'en suis sûr et certain. Et c'est comme Raphaël, le gitan, l'a bel et bien dit. Michel a eu quelque chose qui est bien, mais Michou, ah non, mais c'est grave. Voilà. Je confirme que Dieu te bénisse. Nous lisons, si nous lisons dans Luc 18, verset 1 à 8, nous allons voir l'histoire de cette femme-là qui est allée vers le juge pour toutes ces choses-là. Donc, tous les enfants de Dieu appartiennent à la famille de la tribu de Juda, oui ou non? Ce que la Bible dit. Jésus nous appelle ses frères.
Oui.
N'est-ce pas? Et Jésus fait partie de quelle tribu? La tribu de Juda. N'est-ce pas?
Oui.
Alors que la tribu de Juda, c'est la tribu du lion.
Oui.
Bruco.
Oui.
Ok. Si tu, Jésus nous appelle ses frères, nous lisons dans Hébreux 2, 11. Jésus nous appelle ses frères et qu'il fait partie de la tribu de Juda. Et il t'appelle frère, il t'appelle sœur. Ce qui veut dire que toi aussi, tu fais partie de la tribu de Juda. Donc, de la tribu de lion. Donc, ça veut dire que tu es aussi un lion. Alléluia. Donc, tu es un lion. Mais alors que le lion, c'est l'animal la plus féroce parmi tous les animaux. Un lion est capable de tuer un éléphant. En un clin d'œil, il attrape rare. C'est parti. Et quand les lions rugissent, tous les animaux qui sont là ont peur. C'est que tu cherches. Donc, ce qui dit que toi, tu fais partie de la famille, de la tribu de Juda, de la tribu du lion. Donc tu es un lion. Est-ce que les lions, quand les lions rugissent, quand les lions viennent, ils viennent en majesté, ils viennent en puissance, ils viennent en force. Quand le lion vient, mais tu sais que c'est le lion qui arrive. Mais c'est la foi. Donc, tu ne peux pas être un frère ou une sœur de lion sans être un lion. C'est pas possible. Non, c'est pas une théorie. C'est pas de la théorie que je fais. C'est biblique. Je fais partie de la famille de la tribu de Juda, de la tribu de lion. Donc, si tu es de la famille de la tribu de lion, tu es un lion. Et quand tu es un lion, le lion, c'est l'animal le plus fort. Donc, chaque voix, chaque croix a un lion en lui. Chaque chrétien a un lion en lui. Et ce lion-là, c'est le roc. C'est la puissance. C'est la force. Et tu dois savoir que il y a ce lion en toi. Parce que je fais partie de la tribu de Lyon. Je fais partie de la tribu de Juda. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons dans Genèse 49, le verset 9, on va quand même le lire. C'est très important de le lire. Souvent c'est bien de vérifier. ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, Genèse 49, nous lisons le verset 9. Il dit, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie des genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Qui fera lever le jeune lion ou la jeune lionne? Non! Tu fais partie de la tribu de Judas. Et la Bible est très claire et nette. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Amen. Mon fils, il prend les genoux. Il se couche comme un lion. Nous marchons comme un lion. On se couche comme un lion. On parle comme des lions. Nous mangeons comme des lions. Nous parlons comme des lions. Nous agissons comme des lions. Je suis un lion. Tu es un lion. Nous sommes des lions. Des lions de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Personne ne peut enlever ça à nous. C'est un don de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Frères et sœurs, regardez un exemple. Jésus était en train d'enseigner. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, il parlait, il expliquait les choses du royaume de Dieu. On dit qu'il y a quatre personnes qui ont amené un malade sur un brancard. Et quand ils sont arrivés, c'est un exemple de la foi violente hein, que je dis. Quand ils sont arrivés, vous connaissez bien l'histoire, mais il y a moyen. Je vais quand même l'expliquer, parce que c'est bon de l'entendre encore de nouveau. C'était écrit pour fortifier notre foi. La Bible nous dit que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que tout était bloqué. Ils sont allés à gauche, c'était bloqué. À droite, c'était bloqué. La rentrée principale, c'était bloqué. Les fenêtres, c'était bloqué. Partout, c'était bloqué. Il ne peut pas aller sous la terre et puis aller passer pour rentrer. Il ne peut pas. La terre était fermée. L'entrée principale fermée. Les fenêtres fermées. L'ouest, nord, sud, est, fermé. Mais le ciel n'était pas fermé, Olivier. Sans même le ciel n'était pas fermé. Ils ont imaginé. On ne les a pas dit. On ne les a pas parlé. Ils ont imaginé. Ils ont dit, mais comment on fait pour amener le malade? Nous, on a le malade. On est quatre. On le transporte. Mais comment on va faire? J'en suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est comme Michel, qui est comme Philippe, qui est comme Dominique, qui est comme moi, qui est comme Olivier, qui est comme Titi, qui est comme Marie-Claire, qui est comme nous tous qui sommes ici. J'en suis sûr qui a dit qu'ils ont un trou au toit. Va faire le trou là-bas. Et ils ont fait le trou. Pendant qu'ils faisaient le trou, j'imagine, je peux oser, et tout le monde peut être d'accord avec moi ici, que Jésus a cessé d'enseigner. Il a cessé de parler. Mais nous sommes ici en train de parler. Et puis on voit le poids ici, qu'on attend de faire boum, boum, pour on détruit. Mais on voit dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quels sont ces gens-là? Et Jésus s'est arrêté. C'est pas écrit. C'est ça, c'est moi qui le dis. Il s'est arrêté. Et ils ont fait le tour. Et tous les quatre personnes ont fait descendre le malade. Et quand le malade est descendu, Jésus a regardé. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Tout simplement, votre foi a guéri le malade. Lève-toi, prends ton lit et marche. Va. Ça, c'est la foi violente. Si la foi n'était pas violente, ça va être difficile, ça va être impossible d'aller percer le toit. D'abord, c'était le toit de qui? C'était le toit de qui? Le toit de Philippe? Navège?
Peut-être. Mais il faut payer le poids. Mais ils s'en foutent de ça. La foi violente et aveugle vis-à-vis de la situation humaine. La foi violente perce. Même les poids, ça perce. Et Jésus, voyant ça, il a dit au malade, il n'a même pas prié pour le malade. Non, il a dit simplement, lève-toi, prends tes couchettes là, prends tes clics et tes claques, et puis tu pars. Et ça a été fait. Dieu s'est manifesté, Dieu s'est glorifié. Et un vrai exemple, la fois que vous connaissez bien, la femme qui a touché le vêtement dans Luc 8, Luc chapitre 8, on dit que cette femme-là, hein, mais c'est incroyable. Il faudra rentrer dans une foi dynamique. Cette femme, pendant 18 ans, malade, et ce n'était pas n'importe quelle maladie, c'était une maladie honteuse, où elle perdait du sang, et elle n'avait pas le droit d'être, selon la culture juive, hébraïque, elle n'avait pas le droit d'être là. Elle n'avait pas le droit même de s'approcher à un homme. N'en parle même pas. Un maître de la loi. Jésus était le maître de la loi. Il était un rabbi. Elle n'avait même pas le droit. Mais cette femme-là, elle va user de la violence. Elle était assise. Elle dit, mais comment moi je vais faire pour que moi, mon mal là, me quitte. Elle va utiliser sa foi violente. Jésus passe. Et quand Jésus passe, elle touche le vêtement de Jésus par la foi. Elle dit, je suis sûr. Elle s'est résolue en elle-même. Et puis elle dit, je crois. Pendant que je parle, Jésus-Christ peut faire quelque chose pour toi. Pendant que je parle, même je ne connais pas ta situation, mais Dieu connaît ta situation. Je ne connais pas ton problème, mais Dieu connaît ton problème. Mais sache que le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là et il est capable de faire quelque chose au-delà de ce que tu peux imaginer, de ce que tu peux penser. Peu importe, souvent même c'est mort. Mais Dieu dit dans Romains chapitre 4 que nous sommes quoi? Nous sommes des descendants d'Abraham. Et que Dieu, il appelle à l'église, donne la vie aux morts. Et qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire du néant, Dieu peut faire venir quelque chose. Et c'est clair. Cette femme s'est résolue en elle-même en disant, si j'arrive à toucher simplement le bord de son vêtement, ce n'est même pas le vêtement, hein, tout entier, le bord seulement du vêtement, j'en suis sûr que je serai guéri. Et elle a résolu ça. Qui lui a dit ça? Qui lui a informé? Qui lui a enseigné? Qui lui a conseillé? Il n'y a pas eu de conseil? Il n'y a pas eu quelqu'un qui lui a dit, touche? Non! Personne ne lui a dit. Les hommes qui ont fait des choses dans le malade, en faisant le trou sur le toit, pour les gens dans le malade, qui les a conseillés? Qui les a dit? Qui les a montrés? Non! Au temps de Jésus, les gens avaient une foi violente. Et nous devons également avoir cette foi violente. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe de la situation auquel où moi je traverse, moi je suis avec Jésus. Regardez, ça c'était au temps de Jésus. Avant le temps de Jésus, les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, oh roi, c'est même pas la peine. Nous allons même pas nous prosterner pour adorer ce Dieu monstrueux, ce Dieu de bas. Nous n'allons pas nous protéger pour l'adorer. C'est une bonne affaire. Même si Dieu ne va pas nous délivrer. Quelle foi! Vous voyez la mort? On vous présente la mort. Et la mort, sa porte est ouverte. Et puis on vous dit, si vous ne faites pas, vous allez rentrer dedans. Le pasteur, cette foi existe toujours. Le pasteur, à Touromayel, il était égorgé par les terroristes. Ils sont arrivés, ils ont dit, tu quittes le village. On ne veut plus qu'on asseye ici la parole de Dieu. Les chrétiens ont fui. Le pasteur dit que lui, il reste. C'est Dieu qui l'a envoyé. Tant que Dieu ne lui dit pas de partir, lui, il ne bouge pas. Il est resté.
Ils sont venus, ils l'ont égorgé.
C'est pas de la bêtise. C'est ta foi.
Jésus dit, cela fera, se fera selon ta foi.
C'est ça. Imagine.
Frère et soeur, ce n'est pas facile. La foi dans une foi dynamique. Nous devons avoir une foi dynamique. Nous lisons dans 1 Timothée 3. 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 9. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? 1 Timothée 3, 9, il dit, « Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes.
Alléluia. Gloire à Jésus.
Ici, je n'ai pas besoin de faire de commentaires. Parce que c'est du français. Et vous comprenez le français parce que vous êtes français. C'est dans votre langue. Nous, on a appris le français. On n'est pas né avec le français. Nous, on l'a appris. Donc, je me vois un peu maladroite de venir expliquer le français à des Français. Non. Donc, ce qui est écrit, c'est du français. Et c'est clair. Donc, la foi est un mystère qui nous permet d'avoir la maîtrise et non un principe des Écritures. La foi n'est pas un principe des Écritures. Non. Mais la foi, c'est un mystère. C'est tout un mystère qui nous permet d'avoir la maîtrise de nous-mêmes. Que tu saches qui tu es. Que tu saches comment tu es. C'est ça, la foi. Donc, quand je prends ma deuxième fille, à 7 mois, qu'elle a accouché. Mais quand on est arrivé à l'hôpital, on nous a dit, il faut opérer. Il faut que ce soit par césarienne. Ils m'ont montré le battement cardiaque de l'enfant. Et la fille du docteur, le président Jean-Baptiste, il était président de la Haute-Volta avant la Révolution. C'était sa fille qui devait accoucher mon épouse. Et elle me dit, tant que vous ne faites pas rapidement, l'enfant va mourir et sa maman aussi va mourir. Ou je vous envoie dans la grande hôpital. Et là-bas, si vous arrivez là-bas, ça sera grave. Mais pour faire l'opération, il faut au moins 2 500 euros. C'est où tu veux que je trouve 2 500 euros? Où je veux trouver cet argent? Elle dit, ben, vous décidez où je vous envoie là-bas. Parce que là-bas, ça va être gratuit. Mais à vos risques et à vos périls. J'ai dit à la dame, j'ai dit non. Nous, on va rester ici. Mais elle va accoucher. Elle me dit, moi je suis chrétienne, hein? Je dis oui, je dis vous êtes chrétienne. Mais moi, je suis chrétien avec la foi. J'aimerais demander une salle. Elle m'a donné une salle. Je suis rentré dans la salle. J'ai commencé à prier. J'ai pris autorité une fois. Et à ce moment, elle avait laissé Sally sur la table d'accouchement. Seule. Et puis elle est sortie aller dans son bureau. Et elle était seule en train de crier. Ma soeur et ma belle-soeur étaient dehors. Elle était seule dans la salle d'accouchement. Et j'entendais ses cris. Et quand j'ai demandé la salle, elle m'a donné la salle, je suis rentré, je me suis enfermé. J'ai pris autorité une fois. J'ai dit au nom de Jésus, qu'elle accouche sur le maintenant. Je dis, tout esprit ne peut pas empêcher cela. Je déclare la défaite de Satan. Deux fois, troisième fois, j'ai entendu le bébé crier. Et elle a quitté dans son bureau, sans gants, sans chaussures. Elle a pris l'enfant avec le sang comme ça. Et puis elle tremblait. Elle tremblait. Elle dit, mais je n'ai jamais vu ça. C'était la foi violente. Et je ne peux pas oublier de témoigner de la naissance de Odija. Comme à 7 mois qu'elle est née. Mais elle est intelligente. Par la grâce de Dieu, je prie que ces enfants puissent être au service de Dieu. Donc, dans l'esprit, la parole de Dieu peut devenir féconde quand nous manifestons la foi violente. Une fois que la foi violente n'est pas manifestée, la parole de Dieu n'a pas d'effet dans notre vie. Donc la foi n'est pas une théorie religieuse, mais c'est un mystère du royaume de Dieu. C'est un mystère. Donc la foi n'est pas de la théorie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut venir expliquer. Mais c'est un mystère. C'est un mystère. Ce n'est pas religieux. Ce n'est pas aller faire des confessions. Je ne sais comment. Mais la foi nous amène à aller au-delà de la religion. Au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Au-delà de ce que l'homme peut penser. Au-delà de ce que l'homme peut croire dans sa vie. Donc, je vous invite à lire dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, bon, on peut commencer, oui, le verset 5. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà. La sagesse des hommes, c'est la religion. Il ne faut pas aller chercher loin. La sagesse de l'homme, là, c'est la religion. C'est les dogmes. Mais Paul dit aux Corinthiens que votre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Amen. Cependant, ce n'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient connu cette sagesse, ils n'allaient pas chercher à crucifier le Seigneur de gloire, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Non. Donc nous ne prêchons pas la sagesse des hommes. Parce que, tout simplement, la Bible, elle est très claire. La sagesse, la foi est fondée sur la puissance de Dieu. Si ta foi n'est pas fondée sur la puissance de Dieu, elle n'est pas démonstrative, elle n'a pas de sens. Il faut que la foi puisse avoir de sens bien nourri, qui peut nous permettre réellement de vivre d'une manière décente, d'une manière contrôlée, d'une manière claire. Dans Romains chapitre 1, le verset 16, qu'est-ce que dit la parole de Dieu pour nous? Romains 1, 16. On va voyager un peu dans la parole de Dieu. Des cas et des points de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Donc écoutez bien. Dans 1 Corinthiens 2, 5, dit que notre foi est fondée sur la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, dans Romains, il dit simplement que Car ce n'est point, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est du français? C'est pour du mollet. Alléluia.
Amen.
Dieu est bon. Les Américains disent God is good every time. Ça, ça me plaît beaucoup quand on dit every time. Toujours. Dieu est bon toujours. Il n'est pas seulement bon, mais il est bon, mais toujours. Mais nous les Français, oui, je suis français parce que je suis en France, voilà. Donc quand je vais retourner au Burkina, je suis le Burkina, mais pour le moment, je suis français. Parce que si quelque chose m'arrive dans le territoire français, mais c'est les Français qui doivent se mettre, voilà, donc je suis français. Donc nous les Français, on aime dire, Dieu est bon. Et puis on se limite à là. Dieu est bon. Même si nous, en Afrique, oui, mon ami a sombre, mon ami a soma. Et puis ça s'arrête là. Dieu est bon. Mon ami a soma. Et ça s'arrête là. Mais les Américains sont allés au-delà. Dieu est bon. God is good every time. Voilà. Donc, ils ont ajouté pour toujours. Donc, à savoir, Dieu est bon pour toujours. Alléluia.
Amen.
Amen. Que son nom soit béni ce matin. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Donc, je peux dire que la foi c'est le certificat, c'est le diplôme de notre vie spirituelle. Ça se comprend? C'est clair? À l'université, pour y aller, il faut avoir le bac. Voilà! Notre vie spirituelle, notre bac, c'est la foi. Donc, la foi, c'est la parole de Dieu qui te confirme en puissance, en force. La foi n'est pas une force gentille ou calme. Non. 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 La foi n'est pas gentille. Elle n'est pas calme. Elle est violente. Elle est violente. Même si tu vas utiliser seulement que ce mot-là, la foi n'est pas calme, elle n'est pas gentille. La foi ne connaît pas la gentillesse. Non, la foi, c'est-à-dire, c'est la violence. Tant que je ne reçois pas, tant que je n'obtiens pas, tant que je ne prends pas ce que Dieu m'a promis, il n'y a pas question que je lâche. Tant que ce juge-là ne me rend pas justice-là, il n'y a pas question que je laisse. Je ne laisserai jamais. Non. Nous allons ouvrir le toit pour descendre le malade pour que Jésus-Christ puisse le guérir. Tant que je sais que si je touche devant le bord de son vêtement, je serai guéri. La foi est violente. Elle n'est pas calme. Elle n'est pas gentille. Non. C'est une foi violente. Donc, nous lisons dans Marc 2. Nous allons voir. Nous allons voir cela. Donc, c'est une logique. Une logique. C'est une arme spirituelle. La foi est une arme spirituelle. J'aimerais demander à la mesure de lire Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 16.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Amen. C'est du français, je le dis encore sous mes mots, c'est du français. Donc surtout le verset 16 qui dit de la lecture que Michou a fait, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc, c'est le bouclier de la foi qui fait quoi? Qui fait éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de Satan, des démons. Une fois en Afrique, Nabi a essayé de prier pour une femme qui était malade. Et quand il a prié pour cette femme, il y a quelque chose qui est sorti de la femme et rentré sur la main de Michel. Tu te souviens? Et moi, c'était là, c'est moi qui interprétais. Et Michel, il a dit, au nom de Jésus, c'est sorti. Mais c'est par la foi. Sinon, cette chose allait posséder son bras. Et puis, c'était la catastrophe. Mais, par la foi, il a éteint les traits enflammés de Satan. Et ça, c'est très important. Donc, la foi nous garantit notre victoire sur les forces invisibles. La foi nous garantit notre victoire sur les forces invisibles. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. La foi, c'est une clé. C'est une clé principale pour un monde de possibilités. La foi, c'est une clé principale pour un monde de possibilités. Tant que tu n'as pas cette clé, le monde sera impossible. Et il a dit simplement, toute situation, tout est possible à celui qui croit. Donc, la foi, je peux dire que la foi, elle est illimitée. Souvent, nous avons des connexions où ils disent connexion illimitée. Donc, la foi est illimitée. Elle n'a pas de limite. La foi rentre partout. Elle passe partout. Là où personne croit que ce n'est pas possible. Vous voyez, quand tu me vois ici, en train de parler devant vous, mais je suis une foi inébranlable. Moi, de fait, tu me vois ici, tu vois la foi. Je n'ai pas de diplôme, Olivier. Samuel, je n'ai pas pu être à l'école plus longtemps. Mais regarde ce que Dieu a fait pour moi. Je vais aux États-Unis. Je vais en Asie. Je vais en Asie mineure. Au Koweït. À Dubaï. Je tourne en Afrique. Je tourne en Europe. Il y a des gens qui ont des diplômes. Qui ont l'argent. Mais ils ne peuvent rien. Mais regardez, avec cette pandémie de Covid, je tourne. Mais je tourne par la foi. Les amis me disent fou. On dit que le coronavirus tue. Maintenant, on dit maintenant qu'il y a Omicron. L'autre jour encore, ils ont dit non, que c'est Delta Micron. Mais on ne va jamais finir. Mais peu importe. Dieu m'a dit d'aller prêcher l'évangile. Je vais y aller prêcher l'évangile.
Amen, ça c'est vrai.
Je vais prêcher l'évangile. Et grâce à la prédication de l'évangile, voilà que hier, avec Michel et Philippe, on a discuté. J'ai expliqué les situations de la commune de Boussé. C'est par la foi que j'ai parlé. Et Philippe mettait des réserves. Moi, dans mon cœur, je disais, ça, ce n'est pas un problème. Il faut m'amener simplement là-bas. Et quand on est arrivé, Philippe me dit, non, j'ai préféré le laisser faire. Selon hier, pendant qu'il était en train de faire le test du PCR, Philippe me disait, non, mais à un moment donné, j'ai dit, non, je veux te laisser faire parce que tu es fait pour ça. Et quand j'ai commencé, tout le monde était emballé. On dit, Philippe, tu vois avec lui, vous faites les projets, mais on a l'argent, faites beaucoup, voilà, pour que réellement, on puisse financer. Et le président, il me dit, monsieur le maire, nous on a l'argent, mais on ne veut pas nous faire une fortune. On veut les dépenser pour aider les gens. Faites les projets les plus urgents, les plus immédiats, pour qu'on puisse répondre. Et après, maintenant, on va faire. Et j'ai dit, je demande à ce que vous envoyez quelqu'un. Je ne voulais pas dire, envoyez Philippe, parce qu'il est venu avec moi. Donc, je ne vais pas dire ça. Mais j'ai insisté. Et sur place, ils ont dit, ben oui. Et il y a le nommé Olivier, le second de M. Serge, qui dit, bon, mais M. Risquin, il y a le terrorisme là-bas. J'ai dit, oui, mais il y a le terrorisme, mais nous vivons là-bas. Et Philippe dit, non, moi, je peux y aller. Il dit, ah bon, tu peux y aller, Philippe? Il dit, oui, je peux y aller. Ah, bon, d'accord, donc il n'y a pas de souci.
Amen.
Ça a été fait. C'était la foi violente hier. Mon frère Philippe, c'est vrai ou c'est faux? Il fallait utiliser de la foi violente Moi, j'étais conscient que quelque chose pouvait se passer. J'étais conscient que Dieu pouvait faire quelque chose. Et voilà, bientôt, on aura des projets grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est la foi violente. C'est Dieu qui fait ça. Frères et sœurs, pour terminer, tout est possible. Toute situation est révertible par la foi. Toute situation est révertible par la foi. Peu importe ta situation, peu importe de ce qui peut arriver, sache que la foi est capable de renverser les forteresses et de manifester la gloire de Dieu. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Seigneur, ce matin, je m'approche devant ton trône de gloire pour exprimer ma reconnaissance, pour dire merci parce que tu nous as communiqué la foi depuis la croix de Golgotha. Et ce matin, je te prie pour mes frères et sœurs, au nom puissant de Christ Jésus, qu'à travers ce message, que nous soyons fortifiés. Fortifiés dans ce monde perdu, dans ce monde troublé, dans ce monde auquel où les dirigeants ne savent plus quoi faire. Mais avec toi, Seigneur, nous vivons dans le surnaturel. Bénis les frères et sœurs qui sont ici. Bénis le révérend Jean-Ton, Seigneur, par ta grâce et par ta puissance. Bénis toute sa congrégation. Que nous puissions marcher par la foi et non par la vue. Que nous puissions, Seigneur, exprimer notre foi à travers la parole. Parce que la foi exprimée sur la puissance de Dieu. Père de gloire et de paix, merci de bénir ce culte. Merci de bénir chacun de nous par la foi au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie en même temps pour tous ceux qui ne se sentent pas dans leur corps. Et par la foi, que Dieu puisse rendre justice. Par la foi, que Dieu puisse te guérir comme il a guéri cette femme qui perdait du sang. Seigneur, ce matin, en ton nom Jésus, je déclare maintenant la guérison par la foi dans la vie de tous ceux qui sont ici présents. Que la main puissante de Dieu puisse les toucher. Et si quelqu'un est là ce matin et qu'il lui manque de foi, je demande que le Saint-Esprit de Dieu puisse réellement toucher et fortifier cette personne pour que sa foi puisse augmenter, pour que sa foi puisse être fortifiée au nom de Jésus. Je proclame au nom de Christ Jésus que tous les traits enflammés de l'ennemi soient brisés et que Seigneur, le feu du Saint-Esprit accompagne ton peuple, guérit ton peuple, exauce ton peuple et manifeste ta gloire et ta puissance. Merci Seigneur pour la santé de ton serviteur, le révérend Michel Janton. Merci éternel Dieu, parce qu'il a encore la mission à effectuer en Afrique, la mission à prêcher pour des gens, enseigner pour des gens avec son épouse. Père, que ta grâce repose sur eux, au nom puissant de Christ Jésus, tu peux dire Amen.
Amen.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse, au nom de Christ Jésus.